Je vais raconter mon voyage en Australie, qui a duré 6 mois, pendant une année de césure. Les premiers 6 mois de cette année de césure étaient un stage au Cambodge, au tribunal des Khmers Rouges. Et à la fin de ce stage, c'était au mois de février, je me demandais ce que j'allais faire. Et comme j'avais toujours rêvé de retourner en Australie, j'y avais passé un mois quand j'avais 16 ans, je me suis dit, bon allez, je serai jamais aussi près de l'Australie, donc partons en Australie, faire un working holiday. Et donc voilà, c'était ce que je vais raconter.
Bonjour et bienvenue dans Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, un ou une invitée se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Aujourd'hui, je reçois Marie, qui nous emmène en Australie. Avec elle, on a parlé d'accouchement d'agneau, du Qatar et de la Grande Barrière de Corail.
J'ai bourlingué à travers le monde. Donc l'idée de faire ce working holiday m'est venue parce que j'avais besoin d'aller un peu explorer mes limites, savoir ce que je valais, et je voulais aussi être loin et seule. Mon expérience au Cambodge, c'était super intense, autant sur le plan professionnel que sur le plan humain. Et j'ai aussi goûté à la vie d'expat, qui est une vie aussi très intense, où tu fais beaucoup la fête, t'es très entourée. Et j'avais besoin un peu de couper avec ça et de me dire, voilà, mon année de césure, faut qu'elle soit complète. Faut que j'ai eu l'expérience professionnelle, l'expérience sociale et aussi l'expérience d'être seule. Et c'est vraiment ce que j'ai cherché pendant cette expérience. Au début, je suis partie, je pensais rester un an. Donc, toute la durée du visa. Donc, c'est un visa où tu peux travailler et voyager. Et t'as un an pour quitter le pays. Donc vraiment, en arrivant en février 2017, je me disais que voilà, j'allais rester. J'adorais l'Australie. En tout cas, j'adorais l'idée de l'Australie. Donc j'ai posé mes valises à Melbourne. J'ai tout de suite vraiment adoré la ville, adoré l'ambiance. Il faisait beau, il faisait chaud. Il y a la plage accessible en tram. Enfin, c'était vraiment les premiers jours. J'ai une sensation un peu d'euphorie et de bonheur d'être arrivée dans un endroit dont j'avais toujours rêvé. C'était vraiment trop cool. Donc j'avais pris quelques nuits dans une auberge de jeunesse. Et là, j'avais pas tellement envie de me mélanger aux gens parce que, comme j'ai dit, voilà, je voulais une expérience solo et aussi parce que les gens dans l'auberge de jeunesse étaient principalement des Européens. Et j'avais déjà passé 6 mois au Cambodge avec des Européens. Et je me suis vite dit qu'il fallait que je me trouve une piole. Alors l'immobilier en Australie, c'est hors de prix. Je sais pas ce qui m'est passé dans la tête pour trouver une chambre avant un boulot. C'était peut-être pas très raisonnable. Mais j'ai cherché pendant une semaine et puis j'ai trouvé une petite chambre hors de prix, mais bien placée et avec des colocs sympas. Et donc là a commencé ma recherche de boulot. Je pensais que ça allait être très simple parce que j'avais bossé, j'ai plus de 2 ans d'expérience en resto et bar et je parle anglais couramment. Donc je m'étais dit, bon, allez, ça va être simple, en 3 jours c'est réglé. Surtout que moi, ce qui a beaucoup influencé ce voyage et mon expérience, c'était un peu l'espèce de rêve australien que les gens qui vont faire un working holiday visa te vendent, que c'est super simple, t'es super bien payé et tu t'éclates. En fait, c'était beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Donc j'ai aménagé dans ma chambre hors de prix. Et j'ai mis 3 semaines avant de trouver mon premier boulot, petit boulot payé au black. Pas très bien payé. Et en part-time, donc à mi-temps. Bah du coup, ça fait un peu un coup au moral de se dire, bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est ma tronche, ça plaît pas. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, en parlant un peu aux gens que je rencontrais autour de moi, et notamment mes colocs, je me suis rendu compte que les Français étaient pas très très bien vus en Australie. Notamment du fait que, comme c'est un visa où t'es amené à bouger, les gens ont tendance à prendre un boulot et de le lâcher un peu facilement. Et du coup, on peut arriver avec toute la bonne volonté qu'on veut, bah en fait c'est plus difficile que ça. Pendant 2 semaines, je bossais donc à vendre des glaces. C'était sympa, voilà, sans plus. Et je continuais quand même à chercher le Saint Graal du Working Holiday Visa. C'est un full-time job où là, généralement, t'es bien payé, puis t'es plus à l'aise.
Et donc, je continue à postuler et j'ai été rappelée par un mec qui travaillait pour le Melbourne Food and Wine Festival avec l'annonce des 50 meilleurs restos Michelin, enfin un gros truc sympa dans la restauration. Et il me fait passer un entretien et il me dit, bah voilà, il y a le festival pendant 10 jours, tu vas bosser à fond. On t'engage et puis arrête de chercher du boulot. Après ces 10 jours, t'auras du boulot. Tu voilà, c'est royal. T'inquiète pas, on va t'aider. Ça va être trop bien. Donc moi j'étais ravie. Je mets fin à mon pseudo contrat chez le glacier et je m'apprête à faire ces 10 jours de boulot où là c'était pendant 10 jours, 10 heures par jour, pas mal de boulot. Et en fait très vite ce patron qui m'avait engagé m'a un peu dragouillé maladroitement. Enfin c'était un peu bizarre. Et bien sûr, bah, j'ai jamais entendu parler de job derrière. Et ça m'a quand même pas mal marqué parce qu'à la fin du festival, j'étais à deux doigts de rentrer. C'était super difficile et pour moi, c'était un énorme échec. C'était un énorme échec parce que voilà, j'étais dans une ville paradisiaque, j'avais trouvé, je travaillais quand même un peu, j'avais une chambre. Et puis tous mes potes, ma famille se disaient, bah voilà, elle a fait le choix d'aller en Australie. Bah maintenant, voilà, elle va se débrouiller, tout ça. Et vraiment, j'ai été à un moment dans une espèce... J'ai eu une semaine où je savais pas si ça valait le coup de continuer parce qu'en fait, tout ce à quoi je m'étais confrontée, c'était beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Et c'était un peu mon rêve, en fait, une espèce de rêve qui s'effrite. C'est difficile. Et la vie est dure, ça, j'en suis consciente et... Mais c'était vraiment l'image que j'avais de ce voyage et de me dire je vais rester un an à Melbourne, ça va être génial. Et en fait, au bout de 2 mois, j'étais en fait ça va peut-être pas se passer comme je l'avais imaginé. Et surtout, c'était difficile d'assumer par rapport à mes proches que tout n'allait pas bien. J'avais fait ce choix de partir si loin et en fait, c'était un peu la déprime. Et là, je pense que le hasard fait très bien les choses. Et pour continuer dans les expressions un peu nulles comme ça, le monde est très petit. Parce que ma mère est obstétricienne et elle a accouché une nana dont la sœur vivait à Melbourne. Et elle m'avait mis en contact avec cette nana Valentine. Et Valentine avait une amie qui avait fait 3 mois dans une ferme du Victoria. Pour clarifier, quand on a un visa de travail, on peut être renouvelé une deuxième année en effectuant 3 mois de travail dans une ferme. Et en fait, ces 3 mois de travail en ferme à la campagne t'ouvrent le renouvellement de ton visa automatiquement. Donc, je me suis dit, bon, alors Melbourne, ça va pas, j'y arrive pas, c'est pas pour moi, j'aurais trouvé sinon. Faut rebondir, et du coup, je me suis dit, bon, allez, faisons ces 3 mois, et comme ça, au pire, bah, je vois après ces 3 mois ce qu'il en est, et puis ça me permet, jusqu'à mes 30 ans, de retourner un an en Australie. C'est quand même pas mal. Donc, de ce heureux hasard, du jour au lendemain, quasiment, je suis partie à la ferme. Et là, c'était une autre aventure qui commençait. Et donc oui, du jour au lendemain, j'ai fait mon petit sac. Donc j'avais un sac à dos et un petit sac à main. Et je suis partie à la ferme. Donc c'était une ferme, une des plus vieilles fermes du Victoria. Donc j'ai fait 5 heures de train. Et puis ma patronne, Sybille, est venue me chercher. Et c'était vraiment mais cette image de cette nana à moitié cow-boy avec de la paille dans les cheveux. Dans un vieux pick-up, enfin, c'était vraiment un film qui s'arrête à la gare où il y avait une mini-gare, il y avait deux quais, enfin c'était et donc elle fout mon sac dans le pick-up, je monte dans la voiture, je sais pas, le premier truc qu'on a fait c'est aller au supermarché et moi je la suivais avec le caddie et je la suivais et on faisait les allées comme ça où elle jetait des trucs dans le et elle me parlait avec un accent australien et je ne comprenais rien et j'ai un bon niveau d'anglais mais je ne comprenais rien et c'était voilà cette scène était assez drôle et ensuite on a repris la voiture et on a conduit je pense 1h30 sur du bitume puis après on a conduit encore 1 heure sur des routes en terre et ce trajet m'a paru mais vraiment interminable et c'était j'ai eu le coucher de soleil c'était que des champs et j'étais là, mais où je vais. Et vraiment, pourquoi j'ai signé? Et donc, on est arrivé dans la ferme. Et pareil, entre le portail de la ferme et la maison, il y avait peut-être un quart d'heure de route. Et j'étais vraiment subjuguée par ce trajet en me disant, mais vraiment, dans quoi je me suis embarquée? Mais un peu comme une gosse, parce que du coup, c'était vraiment la vie à la ferme, les chevaux, les moutons, les vaches. Enfin, c'était l'expérience australienne pure. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'à Melbourne, j'ai rencontré très peu d'Australiens. Je faisais du rugby et donc j'en ai fait un peu là-bas, mais c'était assez dur de sociabiliser en tant qu'étranger. C'est les seuls contacts sociaux que j'ai eu avec des jeunes Australiens en 2 mois et demi à Melbourne. Et donc là, j'arrivais en Australie, vraiment, et c'était assez magique. Et donc je me suis retrouvée un peu plongée dans cette famille de fermiers australiens. Dont le père était coach du footy, donc du football australien, et du coup le week-end c'était les matchs de footy, le netball pour les filles, c'était voilà vraiment l'immersion en Australie. Et donc je suis restée 3 mois dans cette ferme, et en gros mes journées s'organisaient le matin aux aurores, lever de soleil sur les grandes plaines, j'allais nourrir les chevaux parce qu'il y avait des chevaux, je suis cavalière et c'était pour ça que j'étais engagée. Et j'ai eu plein de travaux un peu manuels, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jardinage, parce que c'était une vieille ferme, mais comme on imagine l'aristocratie anglaise arrivée en Australie avec leur grand truc, le rose garden immense, alors ça j'en fais encore des cauchemars, la propriété avec le court de tennis, la piscine, et en fait ce qui est très drôle c'est que c'était les descendants de descendants de descendants, mais ils avaient pas du tout les moyens ni le temps de s'occuper de cette grande ferme. Et du coup, c'était assez irréel comme monde. Et donc voilà, les journées, c'était de récurer les différentes pièces et essayer de mettre un peu d'ordre, tondre la pelouse sur une grosse machine à l'américaine. Puis je me suis aussi retrouvée plongée au cœur des histoires de famille, de ces familles australiennes, où c'est l'aristocratie, donc on n'accueille pas facilement les étrangers. Donc le frère, il sortait avec une Anglaise, alors ça faisait des dramas pas possibles, enfin... Et c'était drôle, et j'ai aussi été plongée au cœur de la vie de fermier en Australie, et j'ai appris par exemple que le Qatar possédait, je sais pas, un tiers des terres australiennes, truc dont on n'imagine absolument pas, possède toutes les terres australiennes, et c'est un peu flippant, et c'était touchant aussi de voir ces gens qui te racontent comment bah ils ont plus les moyens de vivre chez eux, et que du coup ils sont obligés de se mettre en coopérative, et c'était sociologiquement c'était assez intéressant à observer. Les semaines sont enchaînées assez vite. Il y a eu 10 jours où j'ai été en charge de la ferme avec le grand-père, le père de mon patron. Et avec Arthur, 67 ans, on a été en charge de faire tourner le truc où fallait, donc c'était en plein hiver, fallait entretenir la chaudière parce qu'il fallait mettre du bois pour chauffer la maison parce que c'était bah, du coup une vieille ferme. Voilà, c'était tous les matins, on allait faire le tour des champs et on aidait les brebis à coucher. Et c'était le truc, mais vraiment, je m'attendais absolument pas à faire ça un jour dans ma vie. J'ai vécu ça. Et après ces 10 jours où on a vécu à deux dans la ferme, et c'était une ferme immense, il y avait un peu un sentiment de tâche accomplie, on a tenu le truc, il y a rien qui est parti en live, parce que c'était quand même bon une organisation où du matin au soir, on est occupé. Et il y a eu vraiment une complicité qui s'est installée entre ce vieux monsieur et moi, où bah on parlait de la vie, de plein de choses, de nos aventures, et c'était vraiment chouette. Et une phrase qu'il m'a dit quand on s'est quitté, enfin quand lui il est retourné à Melbourne, il m'a dit keep being a good person for other people. Ça m'a vraiment ultra marqué dans le sens où déjà personne m'avait fait ce genre de compliment. Est quand même plutôt bon à recevoir. Et ça m'a un peu marquée dans le sens où je me suis réorientée, donc je faisais du droit, et je me suis réorientée vers quelque chose de plus social et plus solidaire, humanitaire. Et je pense que ce monsieur a fait partie de cette ce choix de réorientation. Voilà, ce qu'il m'a dit m'a beaucoup touchée. Et donc la fin des 3 mois est arrivée. Je savais pas trop encore ce que j'allais faire. Et donc j'ai décidé de voyager pendant 1 mois. De rejoindre Cairns, qui est tout au nord de l'Australie. Avant ça, j'ai passé 1 semaine en Tasmanie, où là, c'était absolument génial. C'était l'hiver, donc il y avait personne. C'est la première fois que je louais une voiture. Et ça, c'était aussi un sentiment de liberté. C'était grisant. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'était grisant. Et j'ai fait le tour de la Tasmanie toute seule en voiture, et je m'arrêtais. J'ai fait des grandes randonnées dans les montagnes. Tout était magnifique, rien de conduire. C'était magnifique. Je crois que c'est mon meilleur souvenir de ce voyage. Ensuite, je suis allée à Sydney, où c'était cool, mais voilà, c'était une grande ville. Et en fait, en Australie, il n'y a pas d'histoire, pas beaucoup d'histoire, comme on pourrait avoir à Paris ou en Europe. Et en fait, quand t'as vu une ville, tu les as un peu toutes vues. Alors, je vais peut-être m'attirer les foudres de certains, mais voilà, c'est des villes qui sont super agréables à vivre. Là, je crêchais à Bondi Beach avec les surfeurs, tout ça, donc c'était super chouette. Mais c'est vrai que, voilà, en deux jours, j'avais un peu fait le tour. Je m'étais beaucoup baladée, enfin, je marchais 30 km par jour et je dormais bien. Et j'ai fini ce voyage par un stage de plongée sur la Grande Barrière de Corail que je m'étais offert parce que j'avais été payée pendant mes semaines à la ferme. Et donc ça, c'était mon cadeau de moi à moi de passer mon niveau 1 de plongée sur la Grande Barrière de Corail à Cairns. Et c'était trop bien. C'était vraiment chouette. Donc j'ai fait deux jours d'exercice dans un centre. Donc on est en piscine et on est en petit groupe et on fait plein d'exercices de retirer son masque sous l'eau, retirer son... l'arrivée d'air, tout ça, je sais même plus comment ça s'appelle. Et après, on a passé 4 jours en mer à dormir sur le bateau et on faisait 3 plongées par jour et c'était vraiment, vraiment chouette. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes, donc, qui faisaient des working holiday visa, des jeunes européens, mais très jeunes, 18 ans. Moi, j'ai 25 ans, là. J'avais 24 ans à l'époque. Mais c'était des très jeunes et du coup, un peu bébés et aussi, alors c'est peut-être mon côté maman protecteur, mais je me disais comment ces petits jeunes vont être préparés à se prendre tout ça dans les dents, parce que j'avais eu du mal à voilà à m'installer, à trouver du boulot, et ces petits jeunes, c'était un groupe de 3 jeunes Allemands qui commençaient leur voyage par ça, et je me disais mais ils sont trop naïfs les pauvres petits. Enfin, je leur ai donné du coup plein de conseils, d'essayer de leur ouvrir les yeux sur moi, ce que je m'étais un peu pris dans, enfin ce que je m'étais pris dans les dents, en disant ils étaient vraiment plein de volonté et plein d'entrain, et sans être trop négative, je leur ai dit faut quand même faire attention, pas accepter n'importe quoi, les filles faites attention aussi, parce que ça voilà, la petite jeune de 18 ans qui me dit ah mais là je vais accepter un poste dans une station essence à 300 km, et je dis oh ma petite, non, en fait non, t'as pas envie, non. Du coup, j'avais vu en fin de voyage toute cette jeunesse qui arrivait, et ça m'a un peu marqué de les voir. Et bon, bah, j'ai toujours leur Instagram, donc ils vont bien, ils ont bien voyagé, tout va bien pour eux. Mais c'est vrai que voilà, ça m'avait marqué. Et à la fin du stage, je suis rentrée en France. Donc moi qui pensais rester 1 an, j'ai pu rester 6 mois. Et en fait, c'était un voyage plein de rebondissements, et au final c'était un super beau voyage, pas du tout comme je l'imaginais, mais du coup c'est peut-être que ce qui en a fait sa beauté, et j'en ai tiré de la solitude que j'ai ressentie, j'en ai retiré beaucoup de force aujourd'hui, où j'apprécie vraiment être seule, enfin j'apprécie des moments avec moi, et je pense que c'est nécessaire pour tout le monde de savoir être seule, et ces 6 mois de voyage me l'ont appris, ça c'était chouette.
Merci pour ce récit. Pourquoi t'as voulu raconter ce voyage en particulier ?
J'ai voulu raconter ce voyage pour parler de la solitude, que c'est ok de la chercher, que c'est ok de pas faire comme les autres, et aussi que c'est ok de pas aller bien. On doit rien aux autres, et en fait c'est pas parce qu'on est au soleil que forcément tout est beau, tout ça. On peut avoir des moments de doute et des moments de où on est un peu triste, des moments où on doute de nous. On doute de notre projet, de nos objectifs, et qu'en fait, faut rebondir. Et qu'en fait, je pense aussi que c'est important de pouvoir en parler, de pouvoir dire, si on est à l'autre bout du monde et que ça va pas, de pas être gêné, en fait, par rapport à nos proches, de dire ça, de dire là, j'ai un coup dur, ou là, j'ai un coup de mou. Parce qu'en fait, c'est juste normal. Tout n'est pas joyeux quand on voyage, et au contraire, ça amène beaucoup d'émotions et de sentiments, et voilà.
À entendre ton récit, après les 2 mois que t'as passé à Melbourne, il y a eu une espèce de désillusion, j'ai l'impression, et cette désillusion, tu souhaitais pas forcément la partager, je crois, avec ta famille ou tes amis ou les gens que tu connaissais. C'était pas fierté, c'était... Enfin, qu'est-ce qui a motivé un peu le choix de garder ça pour toi ?
Je pense qu'il y a eu une part de fierté, il y a eu peut-être aussi une part de déni, où je m'en suis rendu compte après, parce que 3 mois dans une ferme, on a le temps de réfléchir et de faire le point un peu sur sa vie. Je pense que je me permettais pas d'aller mal, et de le dire, j'avais fait ce choix de partir si loin, d'exprimer des doutes ou de la négativité, ça aurait été, on m'aurait dit, oh non mais attends, ça va, t'es à Melbourne, il fait beau, il y a du soleil, nous on est sous la neige à Paris, qu'est-ce que tu viens de plaindre. Et il y avait aussi un côté, voilà, où j'osais pas, en fait.
Comme si t'avais pas de légitimité, au fait, à te plaindre, c'est ça?
Bah oui, c'est ça, comme si ce que je vivais, c'était incroyable, et que comme c'est incroyable, ça doit être beau et joyeux, et que je peux pas me plaindre, en fait, c'est ça. T'es loin, et tu peux pas te plaindre, parce que tu fais un truc de rêve.
Un espèce de syndrome... Je sais pas, du voyageur ou syndrome du bout du monde.
Bah ouais, c'est ça.
Ou malédiction.
Ouais, le truc où les gens te disent, mais non, mais attends, ça va. Et parfois, non, ça va pas. Et parfois, c'est pas facile. Et c'est surtout, ouais, aussi par rapport à la désillusion. Comment tu vas expliquer à quelqu'un qui est, oui, sous la grisaille à Paris dans le froid, que toi t'es au soleil, mais que t'es un peu triste parce que tes rêves se sont brisés. Enfin, c'est vraiment un problème, un peu un problème de riche, un problème de... Et du coup, j'osais pas. En fait, c'est ça. J'assumais pas trop tout ça.
Et cette volonté de solitude que t'avais après ta vie d'expatrié que tu décrivais très brièvement au Cambodge au début, est-ce que c'est quelque chose qui t'intimidait un petit peu, qui te faisait peur? Parce que j'ai cru comprendre que c'était la première fois que tu souhaitais vraiment être seule.
Ça me faisait peur un peu. Après, en fait, c'était le moment aussi. Et du lycée à la fac, on est très entouré. Il y a le groupe d'amis, le groupe ensuite d'amis de la fac. Au Cambodge, j'ai eu cette vie d'expatrié où vraiment j'avais mes co-stagiaires au tribunal. Je faisais du rugby beaucoup, donc j'étais aussi très dans ce groupe social du rugby. On faisait beaucoup la fête. Quand t'es expatrié, en fait, tu te rapproches beaucoup des autres parce que t'es pas chez toi. Et que ça, mine de rien, c'est une forme de solitude de pas être dans son pays. J'avais pas ma famille non plus, et en fait, il fallait que j'aille au bout. Enfin, pour moi, cette année de césure, c'était la chance de pouvoir faire toutes ces expériences possibles. Et alors, je me souviens, pour moi, c'est un rapport. Et j'ai eu mon anniversaire, j'ai fêté mon anniversaire en Australie, mes 25 ans. Et mon papa m'a envoyé une carte en me disant « Ne cherche pas trop loin ce que tu as au fond de toi ». Et je trouvais ça quand même assez beau, parce qu'en fait, oui, je cherchais ce qu'il y avait dans moi, et je cherchais aussi à me confronter à cette solitude, parce que dans nos vies d'adultes, il y a cette solitude. Quand on n'est pas en couple, quand on rentre du boulot, on est seul. Et c'est vrai que il faut apprendre à être seul. Et cette expérience en Australie, c'était mon apprentissage de la solitude. Et maintenant, je le vis mille fois mieux, en fait, de pouvoir être seule et de prendre aussi du temps pour moi. Où maintenant, je peux aller au cinéma seule, je peux aller au restaurant seule et passer un bon moment. Et voilà.
Est-ce que tu as voyagé seule à nouveau?
Je suis partie au Cambodge de janvier 2018 à juillet dernier. Et à la fin, je faisais mon master en même temps. Et j'avais un mémoire à écrire que j'ai écrit sur la justice au Cambodge. Et à la fin de ce mémoire, je m'étais pris 2 semaines de vacances à Bali, que j'ai passé partiellement seule. Donc j'ai passé 3 jours toute seule dans le sud de Bali, où c'était vraiment super. Ensuite, j'ai une amie du Cambodge qui m'a rejoint, et en fait, on s'est pas très bien entendu dans le voyage. C'est-à-dire qu'il y avait pas, ça s'est pas mal passé, mais c'était pas fluide. On voulait pas voir les mêmes choses, on voulait pas manger les mêmes choses, donc il y avait un peu, sans qu'il y ait de tension, c'était pas fluide. Et donc elle a voulu aller à Nusa Penida, qui était une petite île à côté de Bali, et moi je voulais aller à Lombok. Dans ma tête, j'étais là, bon, quand je vais lui dire, et après je me suis dit, en fait non, c'est ton voyage. Et donc je suis allée à Lombok, j'ai passé une semaine à Lombok toute seule, et c'était trop bien. Oui, j'ai revoyagé seule.
Pour ouvrir sur le voyage de manière générale, toi, avant de partir, est-ce que tu as un rituel?
J'ai pas de rituel à proprement parler, mais dès que je prends l'avion pour voyager, et pour ces expériences-là, je pleure au décollage. Et alors ça m'est arrivé en arrivant en Australie, ça m'est arrivé en partant d'Australie, et en fait, je me suis rendu compte que chaque changement de vie, et donc le voyage c'est aussi un peu un changement, ben je pleure au décollage de l'avion, alors que je pleure pas beaucoup d'habitude.
Dans ton récit, après, bon, si tu m'autorises le terme, t'as mésaventure ou t'as des convenus, t'as des illusions de Melbourne. Bon, j'ai l'impression que ton plan B c'est fait assez rapidement et que t'es parti un petit peu du jour au lendemain, comme si c'était pour exorciser ces 2 mois que t'avais passé. De manière générale, c'est quoi ta la place que tu laisses à l'improvisation et à tes impulsions quand tu voyages?
Avant, j'étais plutôt dans le contrôle. J'aimais bien quand même savoir où j'allais. J'aimais bien prévoir. La preuve, en arrivant à Melbourne, je me voyais vraiment y rester un an. C'était dans ma tête, c'était ancré. Je regardais déjà pour faire mon master par correspondance pour rester en Australie. J'avais quand même ce plan de « je reste longtemps ». Et en fait, suite à la déconvenue, bah, fallait rebondir. Et ça m'a ouvert cette spontanéité. Du coup, j'ai un peu découvert ça. Après, quand je voyage, j'aime bien quand même savoir où je dors. Je pars pas non plus à l'inconnu. Je laisse la spontanéité dans comment va se passer la journée, si j'ai envie, ce que j'ai envie de faire. Je vais pas avoir de plan. Je vais pas être avec mon routard. Faut voir ça, ça, ça. Ça, je laisse plutôt faire. Par contre, j'ai mon petit confort, j'aime bien savoir où je dors, comment je voyage, et voilà.
Qu'est-ce qu'on va toujours trouver dans ton sac à dos quand tu pars ?
Un Kodak, un appareil photo jetable. Ça fait maintenant peut-être 5 ans que j'en utilise un tous les 6 mois. Et vraiment, je conseille de faire ça, parce que c'est absolument génial de pas se souvenir des photos qu'on a prises, et de le jour où on va les faire développer, c'est vraiment une excitation. J'ai l'impression que c'est Noël. Et du coup, voilà, j'ai toujours un Kodak avec moi.
Alors justement, transition de ouf pour la prochaine question. Comment tu documentes et comment tu racontes tes voyages de manière générale ?
Je rêverais pouvoir écrire. Bon, j'y arrive pas trop. Du coup, je prends des photos. J'ai créé un compte Instagram pour mon voyage, donc en partant au Cambodge avant le stage, et je trouvais que c'était une interface sympa pour que ma famille, donc ma famille plus vieille et mes proches plus jeunes, puissent suivre mes aventures. Et c'est vrai que l'interface sur ordinateur d'Instagram est plutôt sympa. Et donc j'ai commencé cet Instagram que j'ai toujours et que je continue à alimenter de photos qui me plaisent. Et je mettais toujours une date, une petite légende, et c'était comme ça la façon de suivre mon voyage. Et quand je suis rentrée d'Australie, j'ai fait imprimer toutes mes photos de cette année de césure sur un petit carnet. Et c'est chouette de les revoir, parce que vraiment, ça documente mon voyage et mes aventures moins drôles. J'ai perdu toutes mes photos d'Australie. J'ai un iPhone et j'ai installé iCloud pour pouvoir sauvegarder mes photos, parce que j'avais pas d'ordinateur comme je voyageais. Et en fait, c'est synchronisé. Quand on supprime les photos, ça les supprime aussi de l'iCloud. Et donc, j'ai perdu toutes mes photos d'Australie. Donc, il me reste celles qui sont sur Instagram, qui sont aussi chouettes.
Et les photos du Kodak.
Et les photos du Kodak, effectivement.
Je regarde pas mal de photos de voyage et de paysages sur Instagram, et je me rends compte qu'au final, t'as quand même une certaine, uniformisation à l'extrême. Mmh. C'est-à-dire, tout le monde a plus ou moins les mêmes photos. Tu mentionnais Nusa Penida à Bali. J'ai l'impression d'avoir vu 10 000 fois la même photo. Et quand tu parlais de ton dernier mois en Australie, j'ai l'impression que t'as été à la Grande Barrière de Corail, mais que t'as un petit peu évité volontairement les espèces de poncifs comme Uluru. Est-ce que c'était une décision consciente de ta part ? Est-ce que tu voulais voyager un petit peu hors des sentiers battus ?
Je pense que oui. Notamment, j'étais en Asie avant, et c'est vrai que toutes les grandes attractions touristiques, je trouve, sont gâchées par justement le flux de touristes et toutes les photos. J'ai pas voulu aller voir ce que tout le monde allait voir, parce que de toute façon, voilà, j'ai vu 15 000 photos. Les photos que je prends et que j'ai mis sur mon Instagram, pour moi, c'est ma sensibilité artistique. Mais voilà, c'est des photos, c'est un moment. C'est une de mes photos préférées, c'est une photo de deux petits agneaux que j'avais sauvés le jour même, où il y a une super lumière, une super ombre. Et voilà, et ça me parle plus qu'une photo de l'opéra à Sydney, que j'ai quand même pris en photo, mais je me suis pas pris en photo devant, comme certains. Je juge pas, mais moi, j'aime bien un voyage un peu où on voit autre chose et où pas faire comme tout le monde, peut-être.
Tu mentionnais tout à l'heure qu'à l'aller, généralement, tu pleurais. Comment tu gères le retour ?
Dans ce cas-là, quand je suis rentrée d'Australie, ça a été un mois d'euphorie, parce que ça faisait plus d'un an que j'étais partie de France. Donc, retrouver la famille, les grands-parents, les amis, c'était... un mois d'euphorie et de joie de raconter tout mon périple. Et ensuite, je me suis réinstallée à Lille. Et là, j'avais fait ce choix de faire mon master par correspondance. Et en fait, de la solitude choisie en Australie, je suis passée à une solitude imposée quand je suis rentrée à Lille. Et là, ça a été très, très difficile. J'ai fait une dépression. Et donc, je pense qu'il y a une dépression après voyage, ça, c'est sûr. Mais là, ça a été vraiment accentué par le fait que fallait que je bosse. Donc, j'ai pris un boulot alimentaire qui m'a coupée socialement, parce que c'était le midi et le soir en restauration, et le week-end. Mes potes avaient déjà validé leur Master 2, donc ils étaient dans le monde du travail. Et du coup, voilà, de cette solitude choisie, je suis passée à une solitude imposée que j'ai très mal vécue. Finalement, j'ai rebondi. Ça aussi, je pense que j'ai appris ça de ce voyage, c'est de rebondir de situations de difficulté, que voilà, il faut bouger, il faut avancer. Et j'ai décidé de repartir au Cambodge, avec l'idée que je voulais travailler avec l'humain, donc je suis partie travailler dans une ONG, et ça a mené à là où je suis aujourd'hui, et ce qui sera mon job de demain, de travailler voilà, avec des gens, avec des enfants.
Je reviens un petit peu sur ton voyage en Australie quand t'étais seule. Tu mentionnais avoir été à la Grande Barrière de Corail, et j'avais une question sur ça, à quel point, parce qu'on entend souvent que la Grande Barrière de Corail est en danger, que les coraux blanchissent et qu'ils meurent, est-ce que les Australiens ont conscience de ça? Est-ce qu'ils protègent leur Grande Barrière de Corail? C'est quoi la politique du gouvernement et la conscience générale, la conscience du public vis-à-vis de ça?
Je vais te répondre par rapport à ce que j'ai ressenti et ce que j'ai pu analyser et ce dont je me souviens aussi. Sous l'eau, c'est vrai que c'était moins coloré qu'on imagine. Bon, c'était toujours très beau, il y avait beaucoup de poissons, mais c'est vrai que c'était un peu plus pâle que je pensais. Ensuite, on était quand même beaucoup de bateaux. C'est quand même un endroit très touristique, pas tellement protégé. Après, j'ai pas de souvenir qui nous ait fait un peu des speeches d'introduction à voilà, une sensibilisation, des speeches à l'écologie. Je pensais que l'Australie était un pays beaucoup plus en avance sur les questions écologiques qu'en Europe. Très peu de tri sélectif, plein de sacs plastiques. Ça me paraissait être une société plus moderne en la matière. C'est quand même une société de consommation un peu à l'américaine. Il y a beaucoup d'emballages, il y a beaucoup de sacs plastiques et ils font pas très attention. En tout cas, de ce que j'ai pu voir.
Pour se parler du futur, c'est quoi tes futurs plans, tes futurs projets de voyage?
Pour le moment, après avoir passé tant de temps à l'étranger, je suis bien en France.
Ça peut être des voyages en France.
Ah oui, bah j'ai passé tout l'été en Bretagne, et c'est vrai que la Bretagne c'est magnifique. C'est marrant parce que quand j'envoyais des photos à mes parents d'Australie et d'ailleurs, ils me disaient « Ah mais ça ressemble à la Bretagne ». Et c'est vrai que en fait on va très loin pour voir des choses très belles, mais que en fait la France regorge de beauté. Et du coup je pense que pour le moment je vais voyager en France. Et puis après, j'ai 2-3 destinations qui me font envie. J'ai très envie d'aller en Russie l'hiver. J'ai vraiment cette image de grande ville, Moscou sous la neige. C'est quelque chose qui me plaît. J'aimerais bien aller en Écosse aussi. J'ai pas envie de partir très loin, donc ouais. La France d'abord, l'Europe ensuite, et puis après, on verra.
Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose à rajouter?
Quelque chose que je me disais quand je voyageais, que ce soit en Asie ou en Australie, c'est que tant que ça va pas, c'est que ça va. Donc faut pas se faire tout un plat de moments où c'est un peu la galère. C'est que vraiment, tant que ça va pas, ça va. Et que au pire, ça fera des histoires à raconter. Voilà.
Merci beaucoup.
C'était Bourlingué, le podcast qui donne la parole à ceux qui voyagent. Merci pour votre écoute et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en me donnant des étoiles sur iTunes ou en laissant un gentil commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner via votre application d'écoute préférée. Enfin, vous pouvez nous suivre via Instagram, bourlingué.podcast. Ah, et une dernière chose. La musique que vous entendez là s'appelle « J'ai bourlingué » et elle a été composée par Serge Raphaël. Merci à lui. Une partie de moi, mon bonheur. C'est pour un